Mais où est donc Ornicar? Une émission proposée et présentée par Jean-Louis Riwal.
Quand on reprend la définition de la médiation sociale, c'est un processus de création et de recréation du lien. Et bien là, on voit que c'est un processus de création et d'accompagnement. Parce que lorsqu'on crée ou on recrée un lien, on accompagne la personne dans la résolution de son conflit. On voit bien qu'on est dans un processus d'autonomie et de responsabilisation. On ne va pas régler le problème à leur place, mais on va leur donner les moyens, parce que la médiation, c'est aussi ça. Pas une obligation de résultat, mais de moyens. C'est-à-dire qu'on va tout mettre en œuvre pour arriver à accompagner les gens à ce qu'ils souhaitent, tout en respectant donc une forme de déontologie. Et donc ce respect de cette impartialité, en étant empathique, parce qu'on ne comprend pas la personne, mais à travers notre écoute, on lui montre en tout cas qu'elle est comprise.
Aujourd'hui, rencontre avec Emmanuel Lambert, médiateur social.
Alors, le médiateur doit être impartial, mais n'est jamais neutre. En cela, je dirais que moi-même, dans toutes les situations que j'ai pu rencontrer, je n'ai jamais été neutre. Il y a forcément, étant donné qu'on est tous des êtres humains avec nos émotions, nos valeurs, on est forcément confronté de temps à autre à des situations qui nous font mal, à des situations qui nous dérangent. Et pour autant, on a cette faculté à rester impartial.
Le médiateur, c'est une bouche et deux oreilles. La définition de ce travailleur social est posée par Emmanuel Lambert, médiateur social dans une structure angoumoisine. Oméga, objectif, médiation, Grand Angoulême, qui intervient sur 15 communes de cette agglomération. Souvent méconnus du grand public et même des acteurs politiques, les médiateurs sociaux œuvrent quotidiennement sur le terrain pour aider et accompagner les gens à la résolution de problèmes qui peuvent être administratifs, de voisinage vis-à-vis des bailleurs sociaux. Au-delà du travail technique d'écoute, il s'agit pour eux de reconnaître l'individu dans sa complexité, dans sa globalité, alors que jusqu'à présent, l'action sociale avait pour objet de segmenter la personne en vue de solutionner son problème. Un changement radical de paradigme si l'on tient compte qu'aujourd'hui, les gens les plus précaires se sentent exclus, non reconnus en tant qu'êtres pensants et agissants. Il s'agit donc bien de tisser du lien, là où notamment dans les us, soumis à la crise, ils s'effilochent. Nous allons donc donner la parole à Emmanuel Lambert, formateur du réseau France Médiation. Il y a 4 ans, il a orchestré un travail d'accompagnement et de médiation dans une école primaire d'Angoulême.
Structure Oméga, qui signifie Objectif Médiation Grand Angoulême. C'est une structure qui sort de la politique des emplois jeunes, hein, qui a été créée en 1998, qui, sous l'impulsion des politiques et des pouvoirs publics à l'époque, a souhaité développer des actions de médiation sociale sur les différentes communes adhérentes à ce groupement d'employeurs, à cette Comaga, cette communauté d'agglomération du Grand Angoulême. Moi, je suis arrivé sur un secteur qui était en jachère de médiateurs depuis quelques années, où il a fallu reconstruire du partenariat, reconstruire du maillage autour des gens, aller au contact et aller à la rencontre de ces populations qui se sentaient abandonnés, délaissés ou qui n'avaient pas conscience qu'ils avaient des droits, qu'ils avaient certes des devoirs, mais qu'ils avaient encore des droits.
Comment vous êtes allé vers ces personnes? C'était facile?
Facile, alors disons qu'effectivement, lorsque j'ai regardé l'offre d'emploi, il fallait avoir cette capacité d'accueil et d'aller vers. Alors moi, je me suis créé un réseau. J'ai rencontré l'ensemble des partenaires locaux, que ce soit de l'institutionnel jusqu'à l'opérationnel, que ce soit du bailleur à l'agent technique qui travaille au pied de l'immeuble. J'ai démarché les commerçants pour faire reconnaître et connaître d'abord cette médiation sociale, ce qu'elle était, en la définissant, en expliquant quels étaient ses droits et ses devoirs, hein, quelle était sa déontologie, et la faire accepter au quotidien, car le partenariat, ça s'entretient.
Au quotidien, justement, comment ça se fait? Parce que c'est un travail de fourmi, sinon de titan.
Bien sûr. Alors, il faut savoir que j'étais pas là à l'origine. Moi, je suis arrivé à Omega en 2004 et il y avait déjà des pierres qui avaient été réparties ça et là. Et le chemin était plus ou moins tracé. C'est-à-dire que moi, j'avais juste à le transposer sur des communes qui, jusque-là, n'avaient pas réellement reconnu cette utilité sociale de la médiation sociale. Donc, ça a commencé par de la gestion de conflits, par de la présence active de proximité aux abords des établissements scolaires ou alors aux abords des quartiers dits sensibles. Aller faire connaître un petit peu ces actions de médiation sociale, à quoi ça sert, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner le quotidien des gens. Petit à petit, le bouche à oreille, les gens ont commencé à communiquer, à échanger sur qui j'étais, sur qui je représentais. Et en définitive, on a répondu au plan local d'insertion par l'emploi, on a répondu et on a créé réellement un dispositif et un partenariat soudé et fort où chacun a sa place, où moi je peux solliciter l'éducateur spécialisé comme l'assistante sociale, car on travaille en secret partagé, on travaille en collaboration parce qu'on a tous compris qu'on était là avant tout. Je ne vais pas dire pour l'usager, mais on était là pour la personne, pour l'accompagner à être. Et je crois vraiment que la médiation, c'est ça, c'est aider à être, aider à exister pour soi, pour mieux exister derrière pour les autres. Voilà.
Alors, on peut faire la transition avec ce travail que vous êtes en train de mener d'ailleurs, hein, puisqu'on est dans l'interstice entre la réalisation et puis la mise en place du projet. Donc c'est un travail qui est mené dans des écoles à Angoulême. Est-ce que vous pouvez le présenter ?
Alors, les interventions en milieu scolaire et tout bonnement plutôt la médiation par les pairs, qui est une médiation où on va former des enfants à gérer des conflits entre enfants, a vu le jour à Angoulême en 2007, hein, sur la base d'un état des lieux fait par la mairie qui disait que les agents de service ne savaient plus réguler ou avaient un sentiment d'insécurité grandissant face à des violences qu'elles n'arrivaient plus à enrayer.
Au sein même de l'établissement scolaire.
Voilà, sur le temps de pause méridienne, c'est-à-dire le temps de halte garderie ou le temps de repas du midi, où c'est un temps mairie. Donc beaucoup de difficultés à entrer sur le temps de l'enseignant, évidemment. Hein. Pourtant, on n'est pas là pour remplacer l'enseignant, mais réellement pour l'accompagner. Eh bien, on a été formés, les agents de service, aux différentes techniques de communication non violente, aux différentes postures que peut utiliser le médiateur. Je fais référence à Elias Porter, etc., etc. Mais de façon adaptée, et de façon à ce qu'elles, de leur donner des outils et des clés afin d'améliorer leur quotidien.
Alors concrètement, qu'est-ce qui se passait ? Le problème se posait vis-à-vis d'enfants, d'élèves ?
Bien sûr. Alors c'est des jeunes qui ont entre 7 et 10, 11 ans en fonction du niveau de classe et du niveau qu'ils ont. Donc voilà, ils étaient 16 et dans les 16, il y avait 8 médiateurs qui étaient plus âgés. Donc qui était opérationnel beaucoup plus rapidement, et 8 médiateurs qui étaient en formation et qui étaient finalement sous la tutelle d'un autre médiateur plus chevronné, plus âgé. Donc c'était souvent de la violence verbale, mais c'est devenu de la violence physique, et à ce titre-là, on nous a demandé donc de former les agents à toutes ces compétences psychosociales pour justement accompagner leur quotidien qui devenait de plus en plus compliqué. Alors, on est pragmatique, donc pour adapter notre formation, adapter notre sensibilisation, je parlerai plus de sensibilisation par rapport au personnel municipal, eh bien on a été voir ce qui se passait sur le terrain avec l'autorisation de l'établissement, avec l'autorisation de la sphère éducative. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des postures qui pouvaient nuire justement à l'équilibre. Il y avait des attitudes verbales, non-verbales, paraverbales qui pouvaient compliquer les relations quotidiennes. Et en ce sens, on est intervenu dans une école et la directrice a été intéressée par notre venue et a souhaité qu'on mène ensemble, en cherchant des financements communs, une opération de médiation par les pairs. Donc j'ai été amené pendant 3 ans à former 16 enfants par an, justement à toutes ces techniques de gestion de conflits quotidiennes. Alors gestion de conflits en temps direct, c'est-à-dire à chaud, et ces gestions de conflits, ces processus de médiation à froid où les enfants mobilisaient les autres enfants autour d'une table et faisaient émerger des solutions entre eux, tout en conservant cette posture de tiers impartial. Quand vous écoutez un enfant vous présenter la partialité, c'est être ni juge, ni arbitre, ni avocat, enfin, ni policier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le pouvoir de sanction, ils ne prennent pas parti, même si c'est son frère, c'est son cousin. Enfin, et cette démarche-là, ils se le sont appropriés. Enfin, on leur parlait de leur école en bien, ou en tout cas, ils pouvaient changer l'image de leur école parce qu'ils étaient considérés comme des acteurs à part entière de la vie de l'établissement. Et en ce sens, on a vu des enfants recrutés sous la base, alors en présentant l'action de médiation à l'ensemble des classes, même si on a estimé qu'à partir de CP c'était un petit peu trop jeune, parce qu'il y a des notions qui doivent être abordées, donc une certaine compréhension de la lecture, une certaine compréhension du vocable nécessaire hein, en pratique de médiation, ne serait-ce que sur le terme impartialité. Et donc on a recruté 16 enfants, tous genres confondus, toute origine sociale, au sein de l'établissement. Et
c'était sur la base du volontariat ?
Voilà, c'était pas des délégués de classe, c'était pas les meilleurs élèves, c'était ceux qui avaient envie, et sous une forme de lettre de motivation, ils nous expliquaient la raison de leur choix, pourquoi ils souhaitaient être médiateurs et pourquoi ils souhaitaient ne pas l'être, pour vérifier qu'ils avaient bien compris également le sens de notre démarche. Et ils se sont sentis associés dès le début. Ils ont reconstruit les règlements internes de l'établissement et ça a permis une meilleure conscientisation, une meilleure appropriation et donc un meilleur respect de ces règlements qu'ils ont appris à comprendre comme étant nécessaires et plus facile pour aller sensibiliser les plus jeunes ou alors les pères, justement, les autres enfants, aux transgressions de ces règles de vie en collectivité qui sont nécessaires car eux-mêmes l'ont reconnu, ils les ont créées ensemble. Et donc sur cette base-là, les enfants étaient amenés à gérer des conflits, à proposer des aménagements au sein de leur école pour améliorer les endroits qui pouvaient être anxiogènes ou plus porteurs de conflits, les toilettes, etc. Et ça a permis de pacifier les relations entre enfants, entre adultes et enfants, même des fois entre parents, parce que les enfants arrivaient à transposer l'acquisition des savoirs qu'ils avaient en médiation au sein du quartier, au sein de la famille, etc. etc. Et on a pu voir qu'en 3 ans, certains élèves ont eu des résultats scolaires en hausse, alors qu'ils paraissaient être mis à mal, ils étaient dans des clisses ou dans des clines. Certains enfants se sont trouvés de véritables convictions, de véritables valeurs qu'ils ne sentaient pas transmises à la maison. Certains enfants ont pu avoir une perspective de carrière aussi. Il y a des enfants qui m'ont fait des déclarations comme quoi ils souhaitaient vraiment être des médiateurs. Et ils ont été reconnus par le Forum français de la sécurité urbaine comme étant un projet innovant en termes de... comment dirais-je, en termes de plus-value dans la gestion de ces violences à l'école et dans la prévention de ces violences. Et c'est un projet qui s'est arrêté au bout de 3 ans, par faute de financement des pouvoirs publics. Ça, j'ai pas honte à le dire, hein, parce que ça ne changera rien à ce qui s'est passé. Et pour autant, c'est un projet qu'on a souhaité, parce qu'on a anticipé cet abandon de financement, cette fin de financement, qu'on a souhaité rendre autonome. Donc l'ensemble des instituteurs et l'ensemble des agents de service ont été formés à ces compétences psychosociales, ont été formés à ces techniques de communication et de médiation, tout en sachant qu'ils devaient, et comme on le fait avec les gens sur l'espace public, il devait être autonome. Et ce dispositif aujourd'hui de médiation scolaire et par les pairs est autonome dans l'établissement cité.
De médiation aujourd'hui, on entend prendre en compte l'individu dans sa généralité, dans sa complexité, alors que jusqu'à présent, lorsqu'on parle d'action sociale, on a tendance à segmentariser l'individu. Est-ce que vous adhérez à cette définition de la médiation sociale, à savoir on prend en compte l'histoire d'une personne dans sa globalité?
Alors un médiateur, c'est une seule bouche et 2 oreilles. Hein, pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Donc on est un petit peu comme vous, journaliste, hein, c'est-à-dire qu'on va accoucher les gens de leurs mots, M-A-U-X, M-O-T-S, afin de cerner avec eux qui ils sont, d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils veulent. On est tous construits aujourd'hui sur des valeurs, une identité, des besoins, une appartenance. Et quand je suis arrivé dans la médiation sociale, lorsqu'on avait à gérer un conflit, on s'occupait des faits, on s'attachait aux faits. Donc on était des enquêteurs et on allait à travers ça plus ou moins déterminer qui avait tort, qui avait raison.
En gros, vous étiez amené à intervenir en prenant en compte donc, un conflit entre un individu vis-à-vis d'un, par exemple d'un bailleur social. C'est vraiment une compétence d'accompagnement.
Bien sûr. Alors on a listé, hein, on a créé des référentiels d'activité, des référentiels de compétences et on a listé l'ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être qu'il faut mobiliser dans ces conditions-là. En ce sens, lorsque, comme je vous le disais en préambule, lorsque nous intervenions dans un conflit, on analysait les faits et on s'est très vite rendu compte que dans un conflit, il y avait deux vérités et jamais on arriverait à mettre les gens d'accord sur les deux vérités. Par contre, on pouvait les mettre d'accord et les rapprocher sur des besoins, des intérêts et des valeurs sous-jacentes qu'il fallait faire émerger à travers un questionnement ouvert. Vous savez, moi je parle souvent de Confucius, je fais souvent référence à Confucius et à Platon ou à Socrate et Socrate disait que et on dit pourtant que le métier de médiateur est un métier émergent, mais Socrate disait du médiateur qu'il faisait de la maïeutique. La maïeutique, c'est l'art d'accoucher les gens, avec ce que je vous disais tout à l'heure, de leurs mots. Et les maïeuses, finalement, c'était les sages-femmes de l'époque qui mettaient à jour les autres enfants. Donc le médiateur accouche les gens, les aide et les accompagne dans l'approche centrée sur la personne à trouver elles-mêmes leurs réponses, leurs solutions, mais en étant réellement disponible à la parole de l'autre. Et quand je dis deux oreilles et une seule bouche pour écouter deux fois plus qu'il ne parle, c'est être disponible, pas être à disposition, parce qu'effectivement là on pourrait dériver vers des choses pas correctes, donc vers une utilisation des pouvoirs publics, mais réellement être disponible, parce qu'on se rend compte aussi que quand une personne se sent écoutée, elle se sent prise en considération, et c'est souvent 80% du problème qui est déjà réglé, parce que les gens effectivement ont besoin d'exister pour les autres, mais avant tout pour eux. La personne va aider, je vous le disais tout à l'heure en préambule, va aider à être et va aider à recréer des liens entre cette personne et l'institution, mais elle ne va pas faire à sa place, elle va faire avec. Donc c'est une interface entre un et deux individus. Moi, c'est ça que j'ai appris ça à travers un parcours universitaire, j'ai appris ça à travers mes rencontres. Rien ne remplacera l'apprentissage du terrain. La médiation, ça peut s'apprendre dans les livres, mais ça ne peut pas s'apprendre si on ne la pratique pas. Voilà.
On dit également que le médiateur doit être cet individu, cet homme ou cette femme qui doit être extérieur et qu'il est nécessaire que cette personne reste extérieure à, bon, évidemment, au conflit, ça s'entend, mais aussi à la réalité de ce que vivent les personnes.
Alors, le médiateur doit être impartial, mais n'est jamais neutre. En cela, je dirais que moi-même, dans toutes les situations que j'ai pu rencontrer, je n'ai jamais été neutre. Il y a forcément, étant donné qu'on est tous des êtres humains avec nos émotions, nos valeurs, on est forcément confronté de temps à autre à des situations qui nous font mal, à des situations qui nous dérangent. Et pour autant, on a cette faculté à rester impartial.
Quel est votre pouvoir au final ?
J'ai pas de pouvoir. C'est les gens qui le détiennent, il faut juste leur montrer qu'ils ont la capacité à, la capacité d'être, la capacité de faire, leur redonner les clés de leur responsabilisation. Alors, encore une fois, moi je suis dans l'anti-vente avec les gens, c'est-à-dire que je leur montre, je tente effectivement de les convaincre de ce que je peux leur apporter, mais en tout cas je ne leur apporte jamais de solution car la solution vient d'eux. Donc tout ça c'est un travail de congruence, d'authenticité, où lorsque je parle de ce que je fais, j'arrive à convaincre les gens du bien fondé de ma démarche, dans le sens où quand je leur parle, ils ont bien conscience que je ne leur mens pas et que je leur montre tout de suite quelles sont mes limites et mes moyens d'action.
Le travail de médiateur social est aujourd'hui mis à mal par les collectivités, les élus incapables d'endiguer la précarité sociale des habitants. Alors que ce travail nécessite du temps, de la patience, il est demandé à ces professionnels d'agir vite et d'avoir des résultats rapides. Avec Emmanuel Lambert, médiateur social dans une structure angoumoisine, Omega, et formateur du réseau France Médiation.